15. Tôt dans l'après-midi, Roland, Eddie, Jake et le père Callahan chevauchaient sur la route de l'Est, qui à cet endroit était plutôt une route du Nord, le long de la Devil Tatey Way, qui serpentait, avec des pelles enroulées dans leurs sacs de couchage à l'arrière de leurs selles. Susanna avait été dispensée de cette tâche du fait de sa grossesse. Elle avait rejoint les sœurs d'Olitsa au pavillon, où on était en train de monter une tente plus grande et où les préparatifs d'un dîner gigantesque allaient déjà bon train. Lorsqu'ils étaient partis, Calabre et Sturgis avaient déjà commencé à se remplir comme pour un jour de fête. Mais il n'y avait ni cris de joie, ni braillement, ni pétard imprudent, ni attraction organisée sur la pelouse. Ils n'avaient vu ni Andy, ni Ben Slateman, ce qui était une bonne chose. « Tian ?» demanda Roland à Eddie, brisant le silence plutôt lourd qui les enveloppait. « Il doit me retrouver au presbytère à 5 heures. »«
Bien. »«
Si on n'en a pas fini ici à 4 heures, tu auras l'autorisation de rentrer tout seul. »«
Je vous accompagnerai, si vous voulez. »
Les Chinois croyaient que quand on sauvait la vie d'un homme, on était responsable de lui pour toujours ensuite. Callahan n'avait jamais beaucoup réfléchi à cette perspective, mais après avoir tiré Eddie du précipice, près de la grotte de la porte, il lui semblait qu'il y avait peut-être du vrai dans cette idée.
« Il vaut mieux que vous restiez avec nous, » dit Roland. « Eddie peut s'en occuper tout seul.
J'ai un autre travail pour vous ici. En plus de creuser, je veux dire. »
« Oh, et de quoi peut-il bien s'agir ?» demanda Callahan.
Roland pointa le doigt en direction des tourbillons de poussière qui tournoyaient devant eux sur la route.
« Priez pour écarter ce foutu vent, et le plus tôt sera le mieux, avant demain matin en tout cas. »«
Est-ce que tu t'inquiètes pour le fossé ?» demanda Jake.
« Le fossé, ça ira, » répondit Roland. « C'est pour les Oritza des sœurs que je m'inquiète. Le lancer de plat est déjà assez délicat, même dans les meilleures conditions. Si le vent souffle fort quand les loups débarqueront, il y a de fortes chances pour que les choses tournent mal. »
Il fit un geste de la main vers l'horizon poussiéreux, lui imprimant un mouvement typique de la Cala, et fataliste.
« Dès là !»
Cependant Callahan souriait.
« Je serais heureux de vous offrir une prière, mais regardez vers l'est avant de trop vous tracasser, conseilla-t-il. S'il vous sied, je vous prie. »
Ils se retournèrent sur leur selle. Le maïs, la moisson à présent terminée, les pieds se dressaient en rang squelettique et penché, descendait jusqu'aux rizières. Au-delà des rizières s'étendait le fleuve. Au-delà du fleuve, c'était la fin des terres frontalières. Là-bas, des tourbillons de poussière de 10 mètres de haut tournoyaient et sautaient, entrant parfois en collision. En comparaison, ceux de leur côté avaient l'air de méchants garnements.
« Le Siménon fait souvent demi-tour lorsqu'il atteint la Waï, leur dit Callahan. Selon les anciens, messire Siménon supplie Damoritza de l'accueillir quand il arrive au bord de l'eau et lui barre souvent le passage. » « Par jalousie, vous voyez ?»«
Siménon a épousé la sœur de Damoritza, » compléta Jake. « Elle le voulait pour elle, pour l'union du vent et du riz, et elle est toujours dégoûtée de l'avoir perdue. »«
Comment sais-tu ça ?»
demanda Callahan, à la fois amusé et étonné.
« C'est Benny qui me l'a raconté, » dit Jake, puis il se tut.
Il repensa à leur longue discussion, parfois dans le fenil, parfois à rêvasser au bord de la rivière, et à leurs échanges gourmands de légendes, et il se sentit triste et blessé.
Callahan hocha la tête. « C'est bien l'histoire. J'imagine qu'il s'agit en fait d'un phénomène climatique, de l'air froid là-bas qui rencontre l'air chaud qui monte du fleuve, quelque chose dans ce goût-là. Mais quoi qu'il en soit, celui-là a bien l'air de vouloir repartir là d'où il est venu. »
Le vent lui souffla du sable au visage comme pour le détromper, ce qui fit rire Callahan.
« Ce sera terminé aux premières heures du jour, je peux vous le garantir, mais presque ne suffit pas, père. Ce que j'allais ajouter, Roland, c'est que, comme je sais que presque ne suffit pas, je serai heureux d'envoyer en plus une prière. Grand merci. »
Le pistolero se tourna vers Eddie et pointa les deux premiers doigts de sa main gauche vers son propre visage. « Les yeux, d'accord ?»«
Les yeux ?»
acquiesça Eddie.
« Et le mot de passe ?»«
Si ce n'est pas 19, ce sera 89. »«
Tu n'en es pas certain ?»«
Je sais. »«
Quoi qu'il en soit, reste prudent. »«
Ne t'inquiète pas. » Quelques minutes plus tard, ils atteignirent un emplacement où, à leur droite, un chemin caillouteux pénétrait en serpentant dans le pays des Arroyos, vers la Gloria et les Plumes Rouges 1 et 2. Les Falcon pensaient qu'on laisserait là leur bouca, et ils avaient raison. Ils pensaient également que les enfants et leurs anges gardiens remonteraient le chemin jusqu'à l'une des mines. C'est là qu'ils se trompaient. Bientôt, trois d'entre eux se retrouvèrent en train de creuser à l'ouest de la route, tandis qu'un quatrième montait la garde en permanence. Il ne vint personne. Les Falcon qui habitaient si loin avaient déjà rejoint la ville, et le travail progressa rapidement. À 4 heures, Eddie laissa les autres terminer et repartit vers la ville pour retrouver Tian Jaffords, l'un des revolvers de Roland levé contre sa hanche. 16. Tian avait apporté son bât. Quand Eddie l'exhorta à le laisser sous le porche du père, le fermier lui lança un regard mécontent et incertain.
« Il ne sera pas surpris de me voir trimballer mon arme, mais il se posera peut-être des questions s'il vous voit avec ce truc. »
Ils y étaient, c'était le commencement de la bataille, et maintenant qu'ils y étaient, Eddie se sentait serein. Son cœur battait lentement et régulièrement. Sa vision semblait s'être éclaircie. Il voyait l'ombre de chaque brin d'herbe de la pelouse du presbytère.
« Il est fort, d'après ce que j'ai entendu, et très rapide quand il le faut. Laissez-moi faire. »«
Alors pourquoi je suis ici ?»«
Parce que même un robot malin ne s'attendra pas à avoir des ennuis s'il me voit avec un lourdingue comme toi, » était la véritable réponse, mais la prononcer à voix haute aurait été un manque flagrant de diplomatie.
« Par sécurité, allons-y. »
Ils descendirent jusqu'au cabanon. Eddie s'en était servi à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines, et toujours avec plaisir. Il y avait des petits tas d'herbes douces pour se nettoyer, et on n'avait pas à s'inquiéter des relents empoisonnés, mais il n'en avait pas examiné l'extérieur de près jusqu'à maintenant. C'était une structure en bois, grande et solide, mais il ne doutait pas qu'Andy pourrait la démolir en un rien de temps s'il le voulait, si on lui en laissait l'occasion. Rosalita apparut à la porte de derrière de sa maisonnette et les observa, se protégeant les yeux de la main.
« Comment va, Eddie ?»«
Jusqu'ici, tout va bien, Rosie, mais vous feriez bien de rentrer, il va y avoir du grabuge. »«
Ouais ? J'ai un bon tas de plats.
Je ne pense pas que les Rizza seraient d'un grand secours dans le cas présent, » fit Eddie.
« Mais ça ne ferait pas de mal que vous vous teniez prête, cependant. »
Elle hocha la tête et rentra sans un mot. Les hommes s'assirent de part et d'autre de la porte ouverte du cabanon avec son verrou tout neuf. Tian essaya de se rouler une cigarette. La première tomba de ses doigts tremblants et il dut faire une seconde tentative.
« Je suis pas bon pour ce genre de choses, » dit-il.
Et Eddie comprit qu'il ne parlait pas de l'art subtil de rouler des cigarettes.
« Tout va bien. »
Tian lui adressa un regard en coin plein d'espoir.
« Ouais ?»«
Oui, alors qu'il en soit ainsi. »
À 6 heures de tapante, ce salaud a sans doute une horloge réglée au millionième de seconde dans sa foutue carcasse, pensa Eddie. Andy arriva par le côté du presbytère, son ombre longue et arachnéenne s'étirant sur l'herbe devant lui. Il les vit. Ses yeux bleus lancèrent des éclairs. Il les salua de la main. Le soleil couchant se refléta sur son bras, donnant l'impression qu'il avait été trempé dans le sang. Eddie lui rendit son salut de la main et se leva, souriant. Il se demanda si les machines encore en état de marche dans ce monde s'étaient toutes retournées contre leur maître, et si oui, pourquoi ?
« Restez calme et laissez-moi parler, » dit-il entre ses dents.
« Ouais, d'accord. »
« Eddie !» s'écria Andy. « Tian Jaffords !» Quel plaisir de vous voir, tous les deux. Et les armes contre les loups. Ça alors.
Où sont-elles ?
Empilées dans les toilettes, fit Eddie. On pourrait amener un chariot jusqu'ici une fois qu'on les aura sorties, mais elles sont lourdes, et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre là-dedans.
Il se mit sur le côté. Andy s'approcha. Ses yeux lançaient des éclairs, mais il ne riait pas. Il brillait si fort qu'Eddie dut plisser les yeux. C'était comme regarder des ampoules.
« Je suis sûr que je dois pouvoir les sortir, » proposa Andy. « Comme c'est bon de pouvoir aider. Je regrette souvent que ma programmation ne me permette pas de... »
Il se tenait dans l'embrasure de la porte à présent, les jambes légèrement pliées pour ne pas cogner sa tête métallique contre le montant. Edith dégaina l'arme de Roland. Comme toujours, la crosse de bois de santal était lisse et impatiente dans sa main.
« J'implore votre pardon, Eddie de New York, mais je ne vois aucun fusil. »«
Non, lui confirma Eddie. Moi non plus. »«
En fait, tout ce que je vois, c'est un putain de traître qui apprend des chansons aux enfants avant de les envoyer se faire un défi volte-face à une vitesse redoutable, liquide. »
Le ronronnement des servomoteurs placés dans son cou parut soudain très fort à Eddie. Ils se tenaient à moins d'un mètre l'un de l'autre, à bout portant.
« Rends bien t'en face, espèce de salopard en acier !» lança Eddie, avant de faire feu à deux reprises.
Dans l'immobilité du soir, les détonations furent assourdissantes. Les yeux d'Andy explosèrent et s'éteignirent.
Tian poussa un cri. « Non !»
hurla Andy d'une voix amplifiée, si fort qu'en comparaison, on aurait dit qu'Eddie venait juste de déboucher deux bouteilles.
« Non, mes yeux, je ne vois plus. Oh non, vision zéro, mes yeux !»
Les bras d'acier cuivré se précipitèrent sur ses orbites brisées, dans lesquelles des étincelles bleues jaillissaient encore sporadiquement. Les jambes d'Andy se raidirent. Et sa tête alla racler le montant de la porte, arrachant des éclats de bois à droite et à gauche.
« Non, 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 je ne vois plus. Vision zéro. Que m'avez-vous fait? Embuscade. Attaque. Je suis aveugle. Code 7. Code 7. Code 7. Aidez-moi à le pousser, Tian !»
hurla Eddie, rengainant le pistolet. Mais Tian était pétrifié, bouche bée, devant le robot dont la tête disparaissait à présent dans l'embrasure de la porte cassée. Et Eddie n'avait pas le temps d'attendre. Il plongea en avant et plaqua ses mains tendues contre la plaque sur le torse d'Andy qui rappelait son nom, sa fonction et son numéro de série. Le robot était incroyablement lourd. La première pensée d'Eddie fut qu'il était en train de pousser un parking tout entier. Mais il était aussi aveugle, pris par surprise et déséquilibré. Il bascula en arrière. Et soudain, la voix spectrale se tut, pour être remplacée par une sirène au hurlement surnaturel. Eddie crut que sa tête allait se fendre en deux. Il attrapa la porte et la claqua. Malgré l'énorme trou au-dessus du montant, la porte se ferma quand même. Eddie poussa le verrou, gros comme son poing. De l'intérieur du cabanon, la sirène vagissait. Rosa sortit en courant, un plat dans chaque main, les yeux écarquillés.
« Qu'est-ce qui se passe? Au nom de Dieu et de l'homme, Jésus! Qu'est-ce qui se passe ?»
Avant qu'Eddie ait pu répondre, un coup formidable ébranla le cabanon sur ses fondations. Il se pencha vers la droite, mettant au jour le bord du trou.
« C'est Andy, » dit-il. « Je pense qu'il vient de tirer un horoscope qui ne lui a pas plu. »
« Salaud !»
Cette voix n'avait rien de commun avec les trois registres courants d'Andy, obséquieux, condescendant ou faussement servile.
« Salaud ! Salaud, causeur ! Je vous tuerai ! Je suis aveugle ! Oh, je suis aveugle ! Code 7 ! Code 7 !»
Il se tut et la sirène se remit à hurler. Rosa lâcha ses plats et se plaqua les mains sur les oreilles. Un autre coup secoua le côté du cabanon, et cette fois, deux des planches épaisses ondulèrent. Elles volèrent sous le coup suivant.
Le bras d'Andy jaillit à travers le mur, lançant des éclairs rouges dans la lumière, les quatre doigts articulés s'ouvrant et se refermant agités de spasmes. Au loin, Eddie entendit les aboiements fous des chiens.
« Il va sortir, Eddie !»
cria Tian en attrapant le jeune homme par l'épaule. « Il va sortir !» Eddie se dégagea en secouant l'épaule et se dirigea vers la porte. Il y eut un autre coup destructeur. D'autres planches brisées jaillirent du mur du cabanon. La pelouse en était maintenant jonchée. Mais Eddie ne pouvait hurler en même temps que la sirène, le son était trop fort. Il attendit, et avant qu'Andy n'ébranle de nouveau la cabane, la sirène s'interrompit de nouveau.
« Salaud !»
brailla Andy.
« Je vous tuerai, directive 20, code 7, je suis aveugle, vision 0, espèce de lâche !»« Andy, robot messager !»
cria Eddie. Il avait griffonné le numéro de série sur l'un des précieux morceaux de papier de Cahan avec le bout de crayon de ce dernier et il le lut à haute voix.
« DNF 44-821-V63, mot de passe !»
Les coups frénétiques et les hurlements cessèrent sitôt qu'Eddie eut énuméré les chiffres. Pourtant, même le silence n'était pas silencieux. Il avait les oreilles qui bourdonnaient toujours du cri perçant et infernal de la sirène. Il y eut un bruit métallique et des cliquetis de transmission d'informations, puis...
« Ceci est un DDNF 44-821-V63. Veuillez donner le mot de passe. »
Il y eut un temps d'arrêt, puis le robot reprit d'une voix sans timbre.
« Eddie de New York, espèce de salopard, vous avez 10 secondes, 9, 19 !»
dit Eddie à travers la porte.
« Mot de passe incorrect !»
Et Tadferayupa, le ton de plaisir furieux dans la voix d'Andy était indéniable.
« 8, 7, 99 !»« Mot de passe incorrect !»
C'était à présent du triomphe qu'Eddie perçut. Il eut le temps de regretter son incroyable effronterie sur la route. Le temps de voir le regard de terreur qu'échangèrent Tian et Rosa. Le temps de se rendre compte que les chiens aboyaient toujours.
5, 4, ni 19, ni 99. Que restait-il?
Qu'est-ce qui pouvait bien déconnecter ce connard au nom du ciel?
3.
Un éclair traversa son esprit aussi éclatant que les yeux d'Andy avant que le revolver de Roland ne les réduise à l'obscurité, et il revit le graffiti sur la palissade qui entourait le terrain vague qui s'étalait en lettres d'un rose poussiéreux. « Oh, Susanna mio, ma chérie divisée, a garé son semi-remorque dans son cochon du sud, l'année 2 !» Ni l'un ni l'autre. Les deux. C'est pour ça que ce foutu robot avait laissé Eddie se tromper deux fois, parce qu'il ne s'était pas trompé, pas vraiment.
« 1999 !»
hurla Eddie à travers la porte. Derrière, un silence total accueillit sa réponse. Eddie s'attendait à ce que la sirène redémarre, à ce qu'Andy recommence à défoncer le cabanon. Il allait dire à Tian et à Rosa d'aller se mettre à l'abri. C'est une voix sans expression et monocorde qui s'éleva du bâtiment délabré. La voix d'une machine. Toute obséquiosité et toute rage en avaient disparu. Andy, tel que l'avait connu des générations de Falcon de la Cala, avait disparu lui aussi.
« Merci, » dit la voix. « Je suis Andy, robot messager, nombreuses autres fonctions. Numéro de série DNF 44-821-V63. En quoi puis-je vous être utile ?»«
En coupant tes circuits. »
Silence.
« Tu comprends ce que je te demande ?»
Une petite voix horrifiée répondit.
Je vous en prie, pas ça! Méchant homme! Oh, méchant homme! Coupe tes circuits maintenant!
Le silence fut plus long encore. Rosa se tenait la gorge de la main. Plusieurs hommes apparurent au coin de la maison du père, avec dans les mains diverses armes artisanales. Rosa leur fit signe de ne pas approcher.
DNF 44-823-V63, obéis!
« Oui, Eddie de New York. Je vais couper mes circuits. » Une horrible tristesse teintée d'auto-apitoiement résonnait à présent dans la voix d'Andy. Eddie en eut la chair de poule. « Andy est aveugle et va couper tous ses circuits. Avez-vous conscience que si je décharge de 98% ma cellule d'alimentation principale, il est possible que je ne puisse plus jamais être réactivé ?» Eddie se remémora les énormes jumeaux crânés chez les Jaffords, Tia et Salman, et repensa à tous ces autres malheureux que la ville avait vus passer au fil des ans. Il s'attarda sur les visages des jumeaux Tavery, si rayonnants, vifs et soucieux de faire plaisir, et si beaux.
« Ça sera même pas assez long, mais il faudra bien que je m'en contente. La palabre est terminée, Andy. Éteins-toi. »
Dans le cabanon dévasté, un nouveau silence accueillit cet ordre. Tian et Rosa s'approchèrent de chaque côté d'Eddie, et ils se tinrent là, tous les trois, debout face à la porte verrouillée. Rosa agrippa l'avant-bras d'Eddie. Il se dégagea immédiatement de son emprise. Il voulait avoir la main libre au cas où il devrait dégainer, même s'il ne savait pas où il pourrait tirer après avoir détruit les yeux d'Andy. Quand Andy reprit la parole, ce fut d'une voix monocorde et amplifiée qui fit reculer Tian et Rosa dans un sursaut. Eddie ne bougea pas, il avait déjà entendu ce genre de voix et ce genre de mots dans la clairière du Grand Ours. Le discours saccadé d'Andy n'était pas le même, mais ça y ressemblait beaucoup.
« DNF 44-821-V63 coupe ses circuits. Toutes les cellules subnucléaires et tous les circuits de mémoire sont en phase d'extinction. Extinction en cours, 13%. Je suis Andy, robot, messager, nombreuses autres fonctions. Veuillez transmettre ma position aux industries, la Merck et à North Central Positronics. Appelez le 1-954. Une récompense est offerte. Je répète, une récompense est offerte. »
Il y eut un déclic et le message repassa depuis le début.
« DNF 44-821-V63 coupe ses circuits. Toutes les cellules subnucléaires et tous les circuits de mémoire sont en phase d'extinction. Extinction en cours, 19%. Je suis Andy. »
Tu étais Andy, corrigea Eddie d'une voix douce.
Il se tourna vers Tian et Rosa et leurs visages d'enfant apeurés le firent sourire.
Tout va bien, leur dit-il. C'est fini.
Il va continuer son petit laïus pendant un temps, puis il se taira pour de bon.
Vous pourrez en faire une jardinière, je sais pas.
Je crois surtout qu'on va creuser un trou et l'enterrer ici même, répliqua Rosa avec un mouvement de tête en direction du cabanon.
Le sourire d'Andy s'élargit. L'idée d'enterrer Andy dans la mer ne lui plaisait. Elle lui plaisait même beaucoup.
17.
Dans le crépuscule qui mourait, laissant place à la nuit profonde, Roland était assis au bord du kiosque à musique, contemplant les Falcons de la Cala engloutir leur grand dîner. Chacun d'entre eux savait que ce serait peut-être le dernier qu'ils prendraient tous ensemble, que le lendemain soir à la même heure, leur gentille petite ville s'étalerait peut-être au milieu de ces cendres fumantes. Pourtant, ils étaient joyeux. Et pas seulement pour les enfants, remarqua Roland. Ils éprouvaient un grand soulagement à avoir enfin décidé de faire ce qu'il fallait. Même quand les gens mesuraient combien le prix à payer serait élevé, il y avait toujours ce sentiment de soulagement, comme un vertige. La plupart de ces gens dormiraient sur la pelouse avec leurs enfants et leurs petits-enfants dans la tente à côté, et ils resteraient là, le regard tourné vers le nord-est, attendant l'issue de la bataille. Il y aurait des coups de feu, ils le savaient. Pour beaucoup, ils n'en avaient jamais entendu. Puis les nuages de poussière des loups se dissiperaient et repartiraient là d'où il était venu, ou bien ils débouleraient sur la ville. Dans ce cas, les Falcons se disperseraient et attendraient que la destruction commence. Quand ce serait terminé, ils ne seraient plus que des réfugiés sur leur propre terre. Reconstruiraient-ils ce qu'ils avaient perdu si les événements devaient en être ainsi? Roland en doutait. Sans enfants pour rebâtir, car les loups les prendraient tous cette fois-ci s'ils gagnaient. Le pistolero en était certain. Il n'aurait aucune raison de le faire. À la fin du cycle suivant, cet endroit ne serait plus qu'une ville fantôme.
Mille pardons, Sai.
Roland regarda autour de lui. Wayne Overholser se tenait là, son chapeau à la main. Dans cette posture, il ressemblait plus à un vagabond essuyant un revers de fortune qu'au gros fermier de la cala. Ses grands yeux avaient comme un air de deuil.
« Vous n'avez pas à me demander pardon, alors que je porte encore le chapeau que vous m'avez donné, » dit doucement Roland. « Oui, là, mais... »
Overholser hésita, se demandant comment poursuivre, puis il décida d'aller droit au but.
« Reuben Cavell a fait partie de ceux à qui vous vouliez confier la garde des enfants pendant la bataille.
Pas vrai ?»«
Si fait. Ces boyaux ont éclaté ce matin. » dit Overholser en touchant son propre estomac saillant à hauteur de l'appendice. « Il était chez lui. Il est chez lui. Il a la fièvre et il délire. Il va sans doute mourir de l'infection du sang. Il y en a qui s'en remettent, si fait, mais pas beaucoup. »«
Je suis désolé de l'apprendre, » dit Roland, essayant de penser à un remplaçant pour Cavell. Cette masque avait impressionné Roland parce qu'il n'avait pas l'air de connaître la peur, et encore moins la lâcheté.
« Prenez-moi à la place. Vous voulez bien ?»
Roland l'observa attentivement.
« S'il vous plaît, pistolero, je ne veux pas rester à rien faire. Je croyais que je pourrais, qu'il le fallait, mais j'y arrive pas, ça me rend malade. »
Et c'était vrai, se dit Roland, il avait effectivement l'air malade. « Votre femme est-elle au courant, Wayne ?»«
Si fait. »«
Et elle dit si fait ?»«
Oui. »
Roland hocha la tête. « Soyez là une demi-heure avant l'aube. » Une expression de gratitude intense et presque douloureuse envahit le visage d'Overholser, lui donnant l'air étonnamment jeune.
« Grand merci, Roland, grand merci. Beaucoup, beaucoup. »
« Heureux de vous compter parmi nous. Maintenant, écoutez-moi une minute. »«
Si fait. »«
Les choses ne vont pas se passer exactement comme je l'ai dit à la grande réunion. »«
À cause d'Andy, vous voulez dire ?»«
Oui, en partie. »«
Comment ça ? Vous voulez pas dire qu'il y a un autre traître ? Ce n'est pas ce que vous voulez dire. »
Tout ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vous joindre à nous, il faut marcher avec nous.
Vous intuitez. Oui, Roland. Très bien.
Overholser le remercia de nouveau de lui donner cette occasion d'aller mourir au nord de la ville, puis s'éclipsa précipitamment, son chapeau toujours à la main. Avant que Roland pût changer d'avis, peut-être. Eddie s'approcha. Overholser entre dans la danse?
On dirait bien.
Comment tu t'en es tiré avec Andy? Il t'a donné beaucoup de mal? Ça s'est bien passé, répondit le jeune homme, ne voulant pas admettre que Tian, Rosa et lui s'étaient trouvés à deux doigts de se faire calciner. On l'entendait toujours brailler au loin. Mais plus pour très longtemps, la voix en écho déclarait que la procédure d'extinction avait atteint 79%. Plutôt on est très bien sorti. Un compliment de Roland donnait toujours à Eddie la sensation d'être le roi du monde, mais il essayait de le camoufler. En espérant qu'on s'en tirera aussi bien demain.
Et Susanna?
Elle a l'air bien. Pas de... demanda Roland en se frottant le dessus de la tempe gauche. Non, pas pour ce que j'en ai vu.
Pas de phrases saccadées et brutales?
« Non, elle est douée, tu sais. Elle s'est entraînée avec ses plats tout le temps que vous avez passé à creuser. » Eddie tendit le menton en direction de Jake, assis tout seul sur une balançoire, ôté à ses pieds. C'est pour lui que je m'inquiète. Je serais heureux de le sortir d'ici. Ça n'a pas été facile pour lui.
Ça sera plus difficile encore pour l'autre garçon, dit Roland en se relevant. Je retourne chez le père pour essayer de dormir.
Tu arrives à dormir?
Oh oui, avec l'aide de l'huile de chat de Rosa, je vais dormir comme un loir. Vous devriez essayer aussi, Susanna, Jake et toi.
Dak?
Roland hocha la tête d'un air sombre. Je vous réveillerai demain matin. On fera le chemin ensemble. Et on se battra.
Oui, dit Roland.
Il regarda Eddie, ses yeux bleus scintillaient à la lueur des flambeaux.
On se battra. Jusqu'à la mort, la leur ou la nôtre.